Il y a mille et une façons de glorifier Dieu, n'est-ce pas? Mais je pense que là où Dieu est vraiment glorifié, c'est quand nous apprenons à dominer le péché. Depuis maintenant plusieurs semaines, j'essaye de vous entraîner sur ce thème qui touche toute l'humanité, qui me touche, qui te touche personnellement, celui de l'action du péché dans nos vies. Et nous sommes partis du principe que Dieu voulait nous donner cette capacité de dominer le péché. Il l'a dit à Caïn tout au début de l'histoire de l'humanité en lui disant, Caïn, domine. Le péché couche à ta porte, domine-le. Mais toi, domine sur lui. Il porte ses désirs vers toi aussi. Hein? Attention. Et à partir de ce passage-là, nous avons évolué au travers des messages pour essayer de comprendre ce qui nous rendait capables de pouvoir réellement dominer le péché. Pas seulement d'en parler ou de le lire dans la Bible, mais comment ces choses peuvent se produire en moi, dans ma vie personnelle, dans ma réalité quotidienne. Tous les jours, nous sommes confrontés au péché, n'est-ce pas? Qui ne l'a pas été durant cette semaine? Tous. Enfin, vous pouvez lever la main si vous n'avez pas été confronté, mais ça m'étonnerait. Et on réalise que quand Dieu dit quelque chose, il nous en rend aussi capables pour autant que nous le prenions au sérieux. Alors, je ne vais pas, bien sûr, récapituler tous les messages. Vous pouvez aller aussi sur le site. En principe, ils sont mis régulièrement sur le site et vous pouvez remonter les différents messages. Alors, ce matin, on va simplement continuer parce qu'il y a encore des choses à dire. Il y a des choses à découvrir, il y a des choses à comprendre. Et je vous invite à lire un passage dans l'Évangile de Marc au chapitre 16. C'est un passage hyper connu, qu'on a lu des dizaines de fois peut-être, pour les plus âgés, pour les plus anciens, mais qu'il est bon de se rappeler. Parce que c'est Jésus qui parle à ses disciples. Alors si vous fermez les yeux et que vous vous transportez dans le temps, il y a 2000 ans en arrière, sur une colline peut-être en Galilée, et que vous écoutez Jésus au milieu des autres disciples, vous allez entendre ça. « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Donc si je suis au milieu, parce que la troupe de disciples a cru au travers des siècles, si je me trouve dans cette équipe de disciples, les paroles de Jésus résonnent à mes oreilles comme il y a 2000 ans en arrière. Jésus n'a pas changé de stratégie. Il n'a pas changé sa façon de faire. Et ce matin, j'aimerais vraiment... Enfin, je vais essayer parce que j'aimerais... Je vais essayer de vous démontrer que ce qui s'est passé dans le ciel peut avoir des répercussions sur cette terre. Et pas seulement sur la terre habitée, mais dans ma terre à moi, dans ta terre à toi. Parce que pour que nous soyons rendus capables de dominer le péché, il fallait un événement extraordinaire. Un événement extraordinaire. Et cet événement a eu lieu sur une colline à Jérusalem il y a près de 2000 ans. La mort de Jésus sur la croix. Dans 1 Corinthiens 1:18, Paul dit, cette croix, cette mort sur la croix, est une folie pour ceux qui courent à leur perte. C'est une folie. Mais c'est une puissance de Dieu pour ceux qui croient. Folie d'un côté, puissance de l'autre. Cette histoire de mort sur une croix peut en effet apparaître comme une pure folie, une absurdité pour le plus grand nombre. Comment un problème aussi grave que celui du péché peut-il être solutionné par un homme qui meurt sur une croix? Mais lorsque nous sommes saisis par la grâce de Dieu et que nos cœurs, nos yeux s'ouvrent à ces vérités-là, alors nous expérimentons la puissance de Dieu qui s'en dégage. C'est quelque chose qui jaillit du plus profond de nous-mêmes, comme un volcan, dans notre être tout entier. Parce qu'il s'est passé quelque chose dans le ciel, il peut se passer quelque chose sur la terre. Derrière le voile, je l'avais expliqué la dernière fois, derrière le voile, ce qu'on ne voit pas avec nos yeux humains, un ensemble d'événements se sont produits. Devant le voile, qu'est-ce que ces gens voyaient ? Un homme mourir misérablement sur une croix. C'est tout ce qu'ils voyaient. Mais derrière le voile, allaient se produire des événements qui auront des répercussions éternelles. Et c'est ça que nous pouvons voir par la foi. Sans la foi, nous ne voyons que ça. Avec la foi, nous allons derrière le voile. Et le voile est déchiré. Et nos yeux voient ce qu'ils ne voyaient pas jusque-là. L'apôtre Paul disait « qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez. » Et avec émerveillement, nous découvrons alors les conséquences, les incidences qu'a eu cette mort sur la croix dans l'univers visible et invisible. Et que ces conséquences peuvent en avoir dans notre vie à nous, dans ma vie à moi. En effet, la mort et la résurrection de Jésus ont entraîné une suite d'événements qui vont transformer radicalement, qui vont même renverser, bouleverser l'ordre établi jusque-là dans l'histoire de l'humanité et voir des incidences directes dans la vie de ceux qui croient. Alors ça me concerne au premier degré, n'est-ce pas ? Si je comprends ou prends conscience de ces faits, si j'adhère à ces réalités, si je les laisse entrer dans ma vie à moi, il y aura aussi des changements radicaux qui vont se produire. Jésus a dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. C'est-à-dire que vous êtes en marche. Ça vous met en marche. Alors j'aimerais voir avec vous ce matin quatre domaines dans lesquels il y a eu ce renversement de situation, ce bouleversement, cette transformation radicale. Il y avait un avant la croix et il y a un après la croix. Après la croix, il y a des incidences dans le monde invisible et dans le monde visible. Et le premier domaine qui est touché, c'est ma position ou mon statut devant la face de Dieu. C'est vrai, on n'y était pas, mais on en subit les conséquences aujourd'hui encore. Genèse 3, 23. Dieu chassa l'homme du jardin d'Éden. Il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Nous sommes tous des exilés. Aujourd'hui, on voit sur les images de télévision ou dans les journaux des millions de personnes qui doivent fuir ou qui s'échappent de lieux de guerre où leurs vies sont en danger. Mais en fait, nous sommes tous des exilés. Nous sommes tous des déracinés. Nous vivons peut-être, même sans le savoir, bon, nous on le sait, mais beaucoup de gens ne le savent pas, loin du lieu où l'on aurait aimé être. Et le lieu où on aurait aimé être, c'est dans la présence de Dieu. Mais on n'arrive pas à le dire, à l'exprimer, à l'expliciter. Et il y a un mal-être et une nostalgie qui sont présents dans le cœur de l'homme, de quelque nation qu'il soit. Il sait qu'il pourrait vivre paisiblement dans un jardin d'Éden. Il sait qu'il pourrait vivre d'une manière agréable, qu'il pourrait vivre dans un lieu paisible, un lieu sécurisant. Et cette terre est un jardin. Tout le monde sait, de quelque nation qu'on soit, qu'on pourrait tous vivre ensemble dans la paix. Mais si vous faites un sondage d'opinion et vous traversez tous les peuples de cette terre et que vous demandiez à chaque personne « Est-ce que tu es d'accord de vivre dans la paix ?» Il ne va pas vous mettre un fusil sous le nez. Il y a quelque chose dans le cœur de l'homme qui dit mais on devrait pouvoir vivre ça. Parce qu'on y goûte quand même de temps en temps, n'est-ce pas ? Il y a des petits moments de paix dans la vie. Il y a des petits moments où on se sent comme, oui, en sécurité. Et puis les circonstances extérieures ou parfois intérieures nous ramènent dans cette terrible réalité, dans ce mal-être qui est celui de la société. Donc nous sommes tous des exilés.
C'est pas ici qu'on devrait être. C'est dans la présence de Dieu, dans le jardin d'Éden, dans un lieu sécurisant, dans un lieu paisible. Et tous les efforts que la société ou que l'humanité a fait au travers des siècles pour essayer de revivre cela n'ont abouti à rien. On n'a rien appris de hier et d'avant-hier. Et on continue aujourd'hui de bombarder, on continue aujourd'hui d'exiler, on continue aujourd'hui parce que le péché agit dans ce monde et parce qu'il amène les hommes à s'élever les uns contre les autres. Voilà pourquoi la mort et la résurrection de Jésus ouvrent une ère nouvelle. Ça s'était jamais passé jusque-là dans l'histoire de l'humanité. Ça s'était jamais vécu. Le matin de Pâques, la nouvelle se répand au milieu des disciples, bien entendu. Et cette nouvelle, c'est qu'ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Qui parmi les disciples, et je ne parle même pas de la société civile ou religieuse de l'époque, aurait pu croire un seul instant à ce qui s'est produit derrière le voile? Qui pouvait voir dans le monde invisible ce que Jésus est allé faire pour chacune et chacun d'entre nous? Oui, le corps de Jésus n'est plus là, mais on ne l'a pas enlevé. La puissance de Dieu l'a ressuscité et l'a ramené dans le royaume. Jésus a traversé les cieux pour pénétrer devant la face de Dieu avec son propre sang, Hébreux 4,14. Essayez d'imaginer la scène avec les yeux de la foi. On a vu un Jésus crucifié, mais derrière cela, par les yeux de la foi, je vois un Jésus entrer dans le lieu très saint, dans la présence du Père, et lui dire: Père, voilà mon sang. Je l'offre pour la rédemption, pour le rachat de chaque être humain. Jésus a traversé les cieux. Est-ce que vous voyez ça avec les yeux de la foi? Il a payé la dette, il a payé la rançon, et les conséquences de cet acte-là ne vont pas tarder. Ça s'est passé. Si ça ne s'était pas passé, il n'y aurait rien eu sur la terre. Les disciples se seraient dispersés, ils seraient retournés à leur filet de pêche, ils seraient retournés à leur lieu de travail comme tous les lundis matins. Mais parce que des choses se sont produites dans le ciel, il va y avoir des conséquences directes sur la terre. Jésus leur apparaît vivant et leur annonce qu'il nous a acquis une rédemption éternelle, une réconciliation absolue avec Dieu. Si quelqu'un est en Christ, nous dit l'Écriture, 2 Corinthiens 5,17, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Parce qu'il s'est passé des choses dans le ciel, je peux être réconcilié sur cette terre avec Dieu. Mais est-ce qu'on s'en rend compte? Rappelez-vous les chérubins. On ne passe pas ici. On n'entre pas dans la présence du Dieu trois fois saint. Le chemin est fermé, mais Jésus a donné sa vie et le chemin est ouvert. Nous avons maintenant un moyen d'entrer dans la présence de Dieu sans être Hébreux 10:19. Nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Quand les chérubins nous voient arriver sous le sang de Jésus, avec ce moyen, ils lèvent leur épée flamboyante, nous accueillent avec un sourire évangélique et nous souhaitent la bienvenue. Bienvenue au ciel. Bienvenue. Mais est-ce qu'on se rend compte de ce changement de paradigme? Le chemin était fermé jusque-là. On pouvait tout au plus être religieux, encore une fois essayer d'obéir à la loi, mais on n'y arrivait pas. Il y avait une lassitude dans le cœur de l'homme. Mais depuis que Jésus a donné sa vie, il y a eu un changement radical, un bouleversement incroyable. Le deuxième domaine, c'est celui du monde spirituel en rébellion contre Dieu. La parole de Dieu est très claire, nous savons qu'il y a eu une rébellion angélique avant la création même de l'être humain, de la race humaine. Et Satan et les démons ont été chassés de la présence de Dieu. Et la deuxième conséquence donc de l'œuvre de la croix, de ce que Jésus a accompli à la croix, c'est qu'il a dépouillé ses dominations. Qui l'a vu en voyant cet homme mourir sur cette croix? Qui aurait pensé un seul instant que cette mort allait en même temps être un combat qui allait amener à la victoire. Jésus a dépouillé les dominations. Est-ce que tu t'en rends compte? Si nous sommes responsables de notre état de péché, ce n'est pas la faute à Satan, hein? C'est notre responsabilité. Satan, néanmoins, a su tirer un bénéfice maximum de notre état de péché. Parce qu'il clame la rébellion dans notre cœur. Il veut nous tenir séparés de la présence de Dieu. Il fait tout pour cela. Mais il a été dépouillé à la croix. Et c'est vrai. Et je l'ai dit le message précédent. Il y a la croix, il y a la victoire. Mais Satan et le monde spirituel en rébellion continuent son œuvre dans ce monde, comme le péché. Tous les jours, on en voit ses effets. Mais le grand changement, c'est que ça n'a plus d'influence dans mon monde à moi, dans ma vie à moi, sur ma terre à moi. Satan peut se déchaîner autour de moi, il le fait, mais plus dans ma vie. Parce que ma vie est cachée en Christ. Et ça, c'est un changement radical. Où est-ce que tu voulais être caché avant? Où est-ce que tu trouvais refuge avant? Nulle part. Tu pouvais aller de pays en pays comme ces pauvres exilés qui partent de pays en essayant de trouver un lieu sûr. Mais ce n'était pas possible. Mais parce que Jésus est monté sur la croix pour nous, nous pouvons trouver en lui maintenant un lieu sûr. Ma vie est désormais cachée en Christ. Bien sûr que l'ennemi essayera de m'attaquer. Bien sûr qu'il va me tendre des pièges. Bien sûr qu'il va essayer de me tenter. Mais ma vie est cachée en Christ. Et je peux proclamer chaque jour que c'est Jésus mon sauveur. C'est Jésus mon Seigneur. Je suis en lui comme dans une tour forte et élevée. Je marche sur les lieux élevés, nous dit la parole. Ce sont des réalités. Si ça n'avait pas été le cas, nous ne serions pas là ce matin. On n'en parlerait même pas. On aurait rayé de la carte le christianisme et toute l'histoire de la croix, etc. Mais parce qu'il s'est passé quelque chose dans le ciel, il s'est passé quelque chose sur la terre. Pour ceux qui ont mis leur foi en ce que Jésus a accompli. Donc, mon monde est en Christ maintenant. Ma vie est cachée en Christ. Je suis revêtu de Christ et ça se voit. Et le monde spirituel le sait. Et je peux le proclamer et je peux le manifester avec autorité. Je l'ai dit dans le message précédent, ce n'est pas à nous de trembler devant Satan et le monde démoniaque, c'est à eux de trembler face à nous, face à l'Église de Christ, face à chaque chrétien. Ou Jésus a accompli une œuvre parfaite, ou alors il l'a fait de manière imparfaite. Et là on se tait, on ne dit plus rien. Mais Jésus l'a fait. Amen. J'ai plus à subir ce monde-là. Ma vie est cachée en Christ. Le troisième domaine, il est dit que nous étions sous la malédiction de la loi. Dieu a promulgué une loi. Vous ne voulez pas reconnaître votre état de péché, la loi va vous condamner. Parce que vous allez transgresser la loi, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné ou à un autre. Et vous allez la transgresser des dizaines et des dizaines de fois. Parce que personne, dans l'état de péché dans lequel il est, ne peut répondre à l'attente de la loi. La loi, nous dit l'apôtre Paul, nous enferme comme dans une prison étroitement gardée par la loi. La loi est notre geôlière. On ne passe pas. Mais c'est une grâce de Dieu. Merci Seigneur pour la loi. Parce qu'elle m'a obligé à un moment de dire, misérable que je suis. Qui me délivrera? Qui? J'y arrive pas par moi-même. Même Saul de Tarse, qui a grandi au pied des plus grands enseignants de l'époque, auprès des plus grands théologiens de l'époque, dira à un moment donné, mais misérable que je suis. J'ai essayé, moi, de me soumettre à la loi, d'accomplir la loi, mais je n'y arrive pas, parce que le péché qui est en moi m'amène à la transgresser. Ce qui s'est passé derrière le voile, c'est que Christ nous a affranchis de la loi. En donnant sa vie, en présentant son sang, Christ nous affranchit de l'esclavage de la loi. Vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Ça me donne une liberté d'action incroyable. Alors que j'étais esclave maintenant, je deviens un homme libre, une femme libre, de dire, ah, Seigneur, maintenant je suis esclave de toi. Je vais accomplir ta volonté, je vais accomplir tes desseins. Tu m'as rendu libre pour ça. Ayant été racheté à un grand prix, il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi je rappelle ces choses-là? Pour dominer le péché, il faut connaître ces choses. Si tu ne connais pas ces choses, comment est-ce que tu veux être debout devant le péché et lui ordonner ce qu'il n'ose plus faire maintenant dans ta vie? Ces choses-là, ces vérités-là nous donnent une autorité spirituelle et nous permet de pouvoir marcher en nouveauté de vie. Et le quatrième point, ben c'est le grand problème et le grave problème du péché en lui-même. Nous en avons déjà parlé. Ce problème-là trouve aussi sa solution dans la croix, dans l'œuvre de la croix. Avant, il est dit, Éphésiens 2.1, « Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. » Voilà la réalité. Qu'est-ce qu'on va essayer de trouver pour transformer cette réalité? Qu'est-ce qu'on va inventer pour qu'on puisse sortir de cette réalité-là? Aucune solution. Mais après la croix, il est dit, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Colossiens 1,14. Il y a un avant et un après. Et l'accomplissement de ces œuvres nous ouvre un horizon nouveau, nous ouvre des perspectives nouvelles, extraordinaires. Et la première de ces conséquences bénies, c'est le salut. Qui est sauvé? Qui a l'assurance de son salut parmi nous? Vous osez lever votre main. Voilà. Mais pourquoi? Parce que le pasteur y prêche bien? Non. Oh, comment ça, non? Pourquoi est-ce que tu peux dire aujourd'hui, en levant ta main, oui, j'ai l'assurance de mon salut? Parce qu'il s'est passé quelque chose dans les cieux qui a des répercussions sur ta terre à toi. Tu es sauvé parce qu'il s'est passé des choses dans le ciel. Personne ne l'a vu avec ses yeux humains. Mais tu es la preuve que ces choses se sont passées. Parce qu'on ne tiendrait pas pendant 40 ans à se lever tous les jours en disant « Je suis sauvé. Oui, 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 je suis... Non, non, ne doute pas, je suis sauvé. » Ça serait invivable. On tiendrait une semaine, deux semaines, un mois, trois mois. Et on arrête. Parce qu'on ne peut pas se persuader d'être sauvé. C'est parce que le Saint-Esprit de Dieu vient témoigner à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. Mais, écoutez bien ça. Tu as eu, j'ai eu la foi pour être sauvé, n'est-ce pas? Autrement, je ne dirais pas cela ce matin. Mais est-ce que je me rends compte que ce que Jésus a accompli sur la croix et dans les cieux m'ouvre à des perspectives beaucoup plus grandes que simplement le fait de dire je suis sauvé? On peut s'arrêter là, hein? C'est bon, je suis sauvé. Quand elles sont reçues dans la foi, toutes les conséquences, tout l'héritage de Dieu m'est échu. Tout. Et c'est ça qui provoque en moi une transformation qui me permet non seulement d'être enfant de Dieu, mais d'être aussi sacrificateur pour Dieu le Père, d'être aussi ouvrier avec Dieu, d'être aussi ami de Dieu. Et je pourrais continuer, la liste est longue. Si Jésus est mort que pour te sauver, tu as compris ce que j'ai dit là? Si Jésus n'est mort que pour te sauver, c'est qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Jésus est mort pour beaucoup plus que cela. En donnant sa vie à la croix, Jésus voulait qu'à son exemple, nous puissions sur cette terre faire ce qu'il a fait. Il est dit en Actes 10:38 que Jésus allait de lieu en lieu en faisant le bien et en délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. C'est un corps qui se lève. Ce sont des hommes et des femmes qui se lèvent dans ce monde parce qu'assurés de ce qui s'est passé dans le ciel et des répercussions qu'il va y avoir sur cette terre. Ces hommes qui sont partis et ces femmes qui sont parties à partir de Marc 16 ont cru. Ils n'ont rien fait d'autre que de croire. Ils n'avaient rien d'exceptionnel, ces gens-là. Ils étaient de la même nature que nous. Ils ont dû passer par les mêmes étapes que nous. Ils ont été libérés de la loi. Ils sont entrés dans la grâce. Ils ont reçu le salut de Christ. Ils sont devenus enfants de Dieu. Ils se sont réjouis du salut qui leur était accordé. Mais il y a beaucoup plus. Et si nous sommes ici en tant que chrétiens dans cette salle, et s'il y a des centaines de millions de chrétiens sur cette terre, c'est simplement parce que ces gens ont cru. Et qu'avec Christ, ils ont accompli les œuvres qui étaient préparées d'avance.